Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Les premiers saints du pape François ce dimanche, 800 martyrs chrétiens tués par les Turcs, mais aussi deux femmes latino-américaines exceptionnelles, nous les découvrirons dans ce magazine. Les chrétiens veulent sauvegarder la paix et la cohabitation au Liban, en Syrie, en Terre Sainte. Il en va de la paix mondiale et de la liberté humaine. Toutes les églises ont été invitées ce samedi à se mobiliser dans la prière. Comment parler de Dieu aujourd'hui? Fabrice Hadjadj répond à la question dans un de ses livres. Il nous dira que la nouvelle évangélisation n'est pas réservée aux membres du clergé. Tout laïc chrétien a le droit et le devoir de parler de Dieu à ses contemporains. En fin d'émission, ne manquez pas notre rendez-vous hebdomadaire avec le commentaire de l'Évangile. Le pape François présidera ce dimanche les premières canonisations de son pontificat. Si l'attention se concentre principalement sur le cas des 800 martyrs chrétiens tués par les soldats turcs au XVe siècle dans le sud de l'Italie, cette célébration revêt aussi une importance particulière pour la Colombie et pour les Indiens d'Amérique latine. En même temps que les 800 habitants d'Otrante exécutés pour avoir refusé de se convertir à l'islam, le Saint-Père canonisera en effet la première sainte colombienne de l'histoire, Madre Laura, religieuse et éducatrice, avocate des peuples indigènes, fondatrice d'une congrégation missionnaire et morte en 1949. Le président colombien Calderón a d'ailleurs choisi de faire le déplacement jusqu'à Rome avec une suite composée de 20 personnes. Olivier Bonnel.
C'est un parcours extraordinaire qui sera élevé à la gloire des autels. Un modèle pour l'engagement social et religieux des femmes. Institutrice à la campagne, puis religieuse au Carmel de Medellín à la fin du XIXe siècle, Madre Laura est indignée par les injustices subies par les Indiens autochtones et dénigrée par la société colombienne. Cette carmélite est habituée à une vie sédentaire et contemplative. Elle va pourtant passer à l'action avec courage. Elle qui n'avait jamais escaladé les montagnes ni dévalé les pentes raides va avoir l'audace de pénétrer dans la forêt colombienne et d'affronter toutes sortes de dangers pour aller à la rencontre des tribus autochtones. Bousculant les schémas sociaux et ecclésiaux de l'époque, elle prêche l'évangile avec simplicité et annonce aux Indiens le message de la rédemption. Il faudra apprendre leur langue, leurs coutumes, entrer dans leur communauté comme le Fils de Dieu s'est fait homme. En 1914, à l'âge de 40 ans, elle fonde une congrégation pour permettre à d'autres femmes de suivre son exemple et d'appliquer de nouveaux modèles d'évangélisation. Car Madre Laura croyait fermement que les femmes doivent occuper une place de choix dans l'apostolat missionnaire. Sans renoncer à leur nature propre, elles sont plus efficaces quand il s'agit d'approcher les faibles, les pauvres, ceux qui sont opprimés, quand il s'agit de respecter et de valoriser les cultures locales. Les femmes, disait-elle, sont le visage maternel de Dieu auprès des laissés pour compte.
Une autre religieuse latino-américaine sera canonisée ce dimanche, Madre Lupita, une Mexicaine qui a sauvé la vie d'un archevêque. Une femme héroïque qui a consacré sa vie aux malades et aux nécessiteux et qui a fondé un hôpital et une congrégation religieuse. Madre Lupita affronte avec courage les mesures antichrétiennes prises au Mexique de 1914 à 1930. Dans un contexte d'insurrection et d'instabilité, les autorités de l'époque décidèrent de décatholiser le Mexique pour l'ouvrir à la modernité. Les persécutions furent féroces. Le culte catholique interdit pendant plusieurs années. Les religieuses de Madre Lupita durent comme les autres revêtir des habits civils, cacher le Saint-Sacrement et présenter leur hôpital comme une structure de la Croix-Rouge. Recherchée par les autorités, l'archevêque de Guadalajara, Monseigneur Francisco Orozco y Jiménez, trouva refuge pendant un an et demi à l'hôpital San José grâce au courage de Madre Lupita, alors que les familles catholiques avaient refusé de l'accueillir par peur des représailles. Dans l'hôpital qu'elle dirigeait, on servait aussi des repas gratuits pour les séminaristes indigents. Madre Lupita est morte en 1963 en laissant en héritage le témoignage lumineux de son service des plus faibles et des souffrants. La messe de canonisation présidée par le pape François sera retransmise en direct par Radio Vatican ce dimanche matin à partir de 9h30. Les commentaires en français seront assurés pour la région de Rome sur 103,8 MHz et pour l'Afrique sur 17 520 kHz. Mais où que vous soyez, vous pourrez les suivre en audio et vidéo sur le player de Radio Vatican à l'adresse www.radiovaticana.va. Je vous le disais en titre, les églises chrétiennes ont été invitées ce samedi 11 mai à prier pour la paix en Syrie. Une vaste mobilisation, toutes confessions confondues, à la demande des églises de Syrie qui ont voulu baptiser cette journée la prière d'un cœur brisé. Dans cette démarche sans précédent, les églises syriennes ont proposé 4 intentions. Le retour de la paix, la libération de tous les otages, l'aide aux enfants traumatisés par la guerre et la prise en charge des réfugiés. Malgré les difficultés du quotidien et la logique de la haine, les chrétiens syriens veulent garder l'espérance et la confiance. C'est ce que nous explique le père Ghassan Saoui, jésuite libanais vivant à Homs, l'une des principales villes syriennes et siège de violents combats.
Effectivement, cette journée est très importante pour nous et on sent tout à fait que nous n'avons plus que la prière pour la paix, pour que Dieu nous donne vraiment cette paix. Nous avons tant besoin de cette paix céleste parce que on sent l'incapacité des efforts humains, disons, et c'est Dieu seul qui peut nous donner cette paix, cette vraie paix, et qui peut vraiment nous aider dans cette situation malheureusement très sombre, très dramatique, disons. Donc c'est avec enthousiasme et amour, nous prions, nous sentons cette union, nous voulons sentir de plus en plus cette union des cœurs entre nous en Syrie et aussi engager avec nous tout le monde et tous les chrétiens, toute l'Église, afin que Dieu, par sa grâce, nous donne cette grâce de paix.
Est-ce que vous sentez en Syrie la prière des autres chrétiens, des chrétiens en Occident? Est-ce que cette communion de prière est ressentie aussi en Syrie malgré les difficultés, ou il est parfois difficile de sentir ce soutien? Certains parfois se sentent abandonnés.
En fait, oui, malheureusement, la communication n'existe pas toujours d'une manière persistante, mais pour moi personnellement, oui, je sens cette communion et je sens vraiment porté et supporté de tous ces chrétiens qui prient avec nous et pour nous. Mais je crois au nom des Syriens en général, parfois on sent ce manque de communion, d'adhésion, disons, de partout des chrétiens dans le monde. Parfois aussi, cette manque de communication nous fait sentir peut-être aussi ce poids de cette crise, de ce drame que nous vivons, nous fait sentir que nous sommes un peu délaissés, abandonnés à notre destin qui est un peu difficile. Grâce à Dieu, c'est la foi qui nous ouvre ces horizons pour sentir cette communion avec tous les chrétiens.
Est-ce que les Syriens arrivent encore à parler de paix aujourd'hui, et en particulier les chrétiens?
Je crois que c'est un combat spirituel de continuer à croire et à espérer contre toute espérance, disons, comme dit Saint Paul. Malgré toute la brutalité de cette guerre, de ce que nous entendons et voyons, continuer à croire. C'est un combat parce qu'il y a beaucoup de points sombres, il y a une sorte de tunnel de nuit, disons, il n'y a pas de lumière, on le sent toujours, ça. Mais en même temps, aussi, on sent cette espérance, on sent que Dieu est avec nous, donc il nous donne toujours de ses consolations. Il y a des initiatives ici et là, de partout dans le monde, et surtout aussi entre nous, comme Syriens, comme des chrétiens. Il y a besoin de cette paix, de cette réconciliation. Nous sentons que c'est vraiment notre vocation dans ce moment de crise.
Le père Saoui, jésuite libanais vivant à Homs, en Syrie, interrogé par Olivier Bonnel. La fraternité n'est pas une option, c'est une nécessité. Les catholiques français veulent dire non à l'exclusion. Le rassemblement Diaconia 2013 s'est achevé ce samedi à Lourdes. Le message final adressé à l'Église de France et à la société invite au changement d'attitude au sein des communautés chrétiennes pour que les pauvres y tiennent toute leur place et invite les politiques à prendre davantage en compte la situation des plus fragiles. Plus de 12 000 délégués de tous les diocèses de France ont participé à ce rassemblement national dans le cadre d'un processus qui vise à dynamiser l'engagement des communautés chrétiennes en faveur de la charité et à les inciter à témoigner d'une église avec les pauvres. En dehors des médias chrétiens, l'initiative a été peu relayée malgré les efforts des organisateurs. L'Église catholique célèbre ce dimanche 12 mai la 47e journée mondiale des communications sociales sur le thème « Réseaux sociaux, portes de vérité et de foi, nouveaux espaces pour l'évangélisation ». Dans son message publié au mois de janvier, Benoît XVI invitait les chrétiens à habiter le continent numérique pour y être témoins de la puissance bienfaisante de la foi, de l'espérance et de l'amour et pour y proposer leurs valeurs. Les communications et la nouvelle évangélisation sont au cœur de nombreuses initiatives au sein de l'Église catholique dans le monde. Selon Mgr Celli, président du Conseil pontifical pour les communications sociales, les réseaux sociaux représentent pour l'Église un défi et une opportunité. L'avenir du message de l'Église est aussi de voyager sur la toile. Le succès remporté par le compte Twitter du pape en est bien la preuve. Peut-il être un sujet de conversation? Peut-on le placer entre les derniers résultats de Coupe d'Europe et le prochain bulletin météorologique? Fabrice Hadjadj, philosophe et journaliste juif de confession catholique, athée avant sa conversion, fut invité à prononcer une conférence sur ce thème, comment parler de Dieu aujourd'hui, devant l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour les laïcs. Et le livre pour Dieu que nous propose cette semaine Catherine Aubin est la réécriture de son enregistrement oral. Avant de se demander comment parler de Dieu, ne devrait-on pas se demander à qui il faut en parler, en quoi les gens d'aujourd'hui diffèrent de ceux d'hier et pourquoi il faut leur en parler. On écoute Fabrice Hadjadj.
Fabrice Hadjadj, le titre de votre dernier livre, « Comment parler de Dieu aujourd'hui ?» Est-ce que l'on peut dire qu'un des sous-titres serait « Comment enlever ses sandales comme Moïse devant le buisson ardent ?»
Oui, on pourrait dire cela. On pourrait aussi dire que le sous-titre pourrait être « Comment apprendre à balbutier ?» La question ici, c'est effectivement parler de Dieu. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire parler de Dieu? Est-ce qu'on peut parler de Dieu comme d'une chose parmi les autres choses, alors qu'il est le créateur de toutes choses? Et puis même, la question la plus profonde, c'est finalement, est-ce que quand on parle profondément d'une chose, est-ce qu'on ne parle pas déjà de Dieu, ou est-ce que le divin n'affleure pas dans toute parole vraie? On sent bien que finalement, le vrai problème, c'est le fait que quand on se pose la question de parler de Dieu, en fait, on se pose la question de comment parler et comment parler en vérité.
Une autre question aussi que vous posez dans votre livre, c'est « Mais à qui parle-t-on de Dieu ?»
Tout à fait. Quand la question m'avait été posée par Mgr Rilko à l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour les laïcs, justement, je faisais cette remarque que souvent, les chrétiens rangés en formation de combat, si j'ose dire, se disent « Ah oui, mais comment est-ce qu'on va faire pour parler de Dieu ?» Et déjà, ça pose un gros problème, parce qu'on fait comme si l'adresse était indifférente. Or, parler, c'est toujours parler à quelqu'un. C'est toujours une parole adressée. Et on ne parle pas de la même manière, évidemment, à un enfant, à un homme mûr, à un athée et à un musulman. Cette question de l'adresse dans la parole est fondamentale. Peut-être que le Christ nous rappelle que parler, c'est moins dire quelque chose de quelque chose que dire quelque chose, peut-être, sans doute, de quelqu'un à quelqu'un. Et c'est cette primauté des personnes sur les idées qui est essentielle au christianisme et qui est au cœur de l'essence de la parole.
Vous ajoutez aussi que finalement, parler de Dieu, c'est d'abord une aube qu'on lève, une clairière qui fait de la place.
Oui, parce que une des grandes difficultés quand on jette le mot Dieu dans la conversation, c'est que justement c'est un mot parmi d'autres mots, un mot qui pousse les autres pour se faire de la place, comme s'il avait besoin de se faire de la place. Or, parler de Dieu, c'est parler de celui qui est la source de toute chose. Donc il n'est pas en concurrence avec les choses, il n'est pas là pour refouler un être, si infime soit-il, puisqu'il est le créateur de cet être. Donc parler de Dieu, c'est révéler les choses, ça n'est pas opposer comme ça une figure contre le visage de celui à qui on s'adresse, c'est au contraire tenter de révéler le visage de celui à qui on s'adresse. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette parole, effectivement, qui n'est pas comme, je ne sais pas, une végétation proliférante qui viendrait détruire les fleurs alentour, mais plutôt comme le soleil qui se lève et qui fait apparaître la diversité des choses.
Vous essayez justement de nous faire entrer entrer dans ce paradoxe dans lequel Saint Augustin lui-même se trouvait confronté. Que peut-il dire celui qui parle de vous ? Et pourtant, malheur à ceux qui se taisent de vous, car en parlant, ils sont muets. Toute notre réflexion, vous ajoutez, ne pourra se situer qu'à l'intérieur de cette affirmation. On ne peut pas parler du Dieu ineffable et en même temps, on ne peut pas se taire de lui.
Effectivement, c'est précisément dans cette tension entre l'impossibilité de parler et l'impossibilité de se taire que se joue la parole la plus profonde. Donc c'est une parole qui ne cesse d'échouer, qui avoue qu'elle ne parle pas encore. Et en même temps, c'est une vraie parole, une parole profonde qui fait qu'on n'est pas du tout en train de se taire.
Interrogé par Sœur Catherine Aubin, Fabrice Adjadj dirige actuellement Philanthropos, l'Institut européen d'études anthropologiques à Fribourg, en Suisse. Et c'est l'heure de retrouver le Père Pascal Montavi pour le commentaire de l'Évangile de ce 12 mai, 7e dimanche de Pâques. C'est l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. « Que tous soient un pour que le monde croie ».
L'évangile de ce 7e dimanche de Pâques nous propose de méditer sur la prière que Jésus adresse à son Père juste avant d'entrer dans sa passion. Jésus lève les yeux au ciel et dit « Je ne te prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. » Jésus prie donc pour nous qui avons reçu la parole de Dieu transmise par les apôtres. Dans cette prière de Jésus, pour moi, aujourd'hui, trois intentions ressortent particulièrement. Tout d'abord, Jésus dit « Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi ». Le premier désir de Jésus est que nous soyons unis, en communion les uns avec les autres, comme le Père et le Fils sont en communion. Le principe de toute communion, c'est l'amour et la miséricorde. C'est donc un appel à nous pardonner les uns les autres que Jésus nous adresse. Pardonner, c'est parfois au-delà de nos capacités humaines. Certaines offenses font naître en nous le désir de vengeance, nous font souhaiter du mal à nos ennemis. Bien sûr, il est normal que justice soit faite et les lois du pays où nous vivons sont là pour garantir l'ordre social. Ce sur quoi, cependant, Jésus nous interpelle, c'est l'attitude profonde de notre cœur lorsque nous nous sentons lésés, offensés. Est-ce que je me ferme ou est-ce que je garde la porte ouverte à la réconciliation ? Les offenses qui sont les plus douloureuses sont souvent au sein de la famille, des proches. En ce jour, Jésus nous invite à garder une attitude de cœur où la réconciliation est toujours possible. Il nous invite à renoncer à la vengeance. Et si cela paraît impossible, alors demandons la grâce d'entrer dans ce chemin de vie et de résurrection. Jésus continue sa prière. « Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé. » Cette unité à laquelle Jésus nous appelle est donc un témoignage que les chrétiens sont appelés à donner au monde. Quelle autre religion dans le monde met en avant, comme le christianisme, les valeurs d'humilité et de pardon afin que l'unité soit parfaite ? C'est bien la merveille de notre foi que de professer un Dieu qui s'est abaissé jusqu'à mourir sur la croix. Il nous a montré l'exemple. Si nous-mêmes nous marchons en vérité à la suite de Jésus, alors les hommes reconnaîtront qu'il est le Sauveur. Seul Dieu peut donner la communion entre les hommes. En ce jour, prions pour que l'Église offre toujours plus ce témoignage d'amour et d'unité, un témoignage qui est indispensable pour que la proclamation de la bonne nouvelle trouve un écho favorable parmi ceux qui ne connaissent pas Jésus. Enfin, Jésus termine sa prière ainsi. « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore. » Jésus prie le Père, et il nous fait connaître le nom de Dieu, afin que nous puissions nous aussi appeler Dieu notre Père. S'adresser à Dieu comme à un Père, c'est reconnaître que lui seul nous donne la vie, nous protège et est présent à nos côtés. C'est la prière de Jésus pour nous aujourd'hui, que nous puissions nous unir à lui et en lui, nous tourner vers le Père dans un acte d'abandon total, afin de lui remettre nos vies, nos joies, nos souffrances et notre espérance. S'abandonner au Père du ciel est la source de la joie chrétienne. «
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Bon dimanche à tous.